Radio Prague, les informations.
La Chambre des députés tchèques a adopté le projet du budget d'État pour l'année prochaine. Destitution des chefs de l'Institut de protection des monuments historiques. Visite de la ministre française de la Défense en Tchéquie. Les députés tchèques ont approuvé le budget d'État pour l'année 2006. Les députés communistes se sont abstenus. Le Parti civique démocrate, ODS, formation principale de l'opposition, a voté contre le budget. Selon les représentants du gouvernement tchèque, le budget sera la garantie de la croissance économique et reflétera la politique des réformes adoptée par le cabinet tchèque. Au cours de l'année 2006, le déficit budgétaire devrait atteindre 64,4 milliards de couronnes, soit quelque 2,5 milliards d'euros. Le ministre tchèque de la Culture, Vítězslav Jandák, a destitué tous les directeurs de départements territoriaux de l'Institut national de protection des monuments historiques, y compris le directeur général de cette institution, Zdeněk Novák. Lundi, le ministère lancera un appel d'offres pour occuper les postes restés vacants. Le ministre désire rendre plus efficaces et plus transparentes les activités de l'Institut et améliorer surtout le travail de l'inspection des monuments historiques qui, à son avis, a été paralysé au cours des derniers 10 ans. La ministre française de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a visité la République tchèque. Il a souligné à cette occasion que les rapports entre l'OTAN et l'Union européenne ne sont en aucun cas les rapports des deux concurrents, mais que les deux institutions se complètent mutuellement. L'OTAN et l'Union européenne ont des compétences différentes et sont utilisables pour la solution des crises différentes. La ministre a rappelé dans ce contexte quelques réussites de la défense européenne commune en Macédoine, au Congo et en Bosnie-Herzégovine. Un festival du film d'Asie se poursuit à Prague dans les cinémas Aero et Svetozor. Dans son cadre, le public pragois pourra voir au total 44 films représentant les courants les plus importants dans le cinéma asiatique de notre temps. Météo. Ce vendredi, fête de toutes les Blancas, blanches, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été nuageux avec quelques faibles chutes de neige. Les températures diurnes se sont situées entre moins 4 degrés et 0. Samedi, le temps en Tchéquie sera couvert avec de la pluie ou de la pluie mêlée de neige par endroits. Les températures varieront entre moins 2 et 2 degrés au-dessus de 0. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Merci d'avoir choisi Radio Prague. À la une de l'actualité, le début des célébrations en Moravie du Sud du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. Nous retrouverons sur place Alexis Rosenzweig. Retour sur le thème de l'euthanasie en République tchèque et sur les dispositions prévues par un nouveau code pénal qui devrait entrer en vigueur à partir de 2007. Comme dans les autres pays européens, le sujet ne fait pas l'unanimité dans la société tchèque. Réaction dans cette émission. Les francs-maçons tchèques fêtent les 15 ans de la recréation de leur loge dans le pays. Nous sommes allés à leur rencontre. Enfin, le théâtre tchèque a été récemment à l'honneur à Paris dans le cadre du Festival de la culture tchèque des années 60. Notre correspondant parisien vous en dira plus. Ce vendredi 2 décembre, 200 ans se sont écoulés depuis la victoire de Napoléon sur les armées russes et autrichiennes près du village d'Austerlitz en Tchèque-Slavkov. Le bicentenaire de la fameuse bataille des Trois Empereurs y est célébré en grande pompe à partir de ce vendredi et tout au long du week-end. Alexis Rosenzweig suit la fête sur place dans le sud de la Moravie.
Près de 4000 soldats volontaires, 16 000 portions de nourriture, 1,5 tonne de poudre à canon, 15 millions de couronnes de budget et 30 000 spectateurs attendus. C'est le dispositif impressionnant déployé dans cette région de Moravie du Sud pour la reconstitution de la bataille des Trois Empereurs. Les passionnés sont venus de tous les coins d'Europe, mais aussi de beaucoup plus loin. Nous avons même croisé des Australiens et des Néo-Zélandais. Et cette année, c'est un Américain, vous le savez déjà si vous écoutez Radio Prague, c'est un Américain donc qui portera le tricorne pour incarner Napoléon. Avant le début des grandes manœuvres, tout le monde était en tout cas très impatient que les festivités débutent, à commencer par Thierry Lenz, président de la Fédération Napoléon.
Alors moi, c'est la première fois de ma vie que je vais assister à une reconstitution. Donc j'y vais beaucoup par curiosité. Puis on dit que la reconstitution va mettre en œuvre beaucoup de gens. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai envie de ressentir des choses. J'ai envie de sentir la poudre. J'ai envie d'entendre le bruit que fait une bataille, même si là, ils seront que 3 4 000 au lieu d'être 150 000. Mais déjà, à 3 4 000, ça doit faire un peu de bruit. Donc ça m'intéresse beaucoup. Les lieux du champ de bataille un petit peu animés, mais j'ai envie de voir si effectivement c'est difficile de franchir le plateau de Pratzen. J'ai envie de voir si une escouade va mettre beaucoup de temps pour aller de sa position de départ à cheval, etc. Je pense que sur le plan documentaire, ça va m'intéresser. Je ne suis pas sûr que sur le plan météorologique, je vais le supporter pendant toute la journée, mais je vais m'équiper en conséquence.
Et Thierry Lenz aura raison de se méfier, car le pire ennemi en ce début décembre 2005 est sans aucun doute le froid. Parce que le soleil d'Austerlitz, c'est bien beau, mais le public, dans lequel on trouvera notamment la ministre française de la Défense, devra supporter les températures négatives de la plaine Morave. C'était Alexis Rosenzweig à Slavkov, ou plutôt Austerlitz, pour Radio Prague.
Pod Slavkovem, pod tu horu, pod Slavkovem, pod tu horu. Поставил Рус сву армаду, поставил Рус сву армаду.
Sachez que le Centre culturel tchèque de Paris, où nous nous rendrons à la fin de l'émission, est le partenaire officiel des célébrations Austerlitz 2005. Il vous propose de suivre la reconstruction de la bataille d'Austerlitz en direct par la chaîne de télévision tchèque ČT24 ce samedi de 12h30 à 14h30. Plus de détails sur le site du centre www.centretchèque.org ou encore sur www.ct24.cz. L'adoption du nouveau code pénal par la Chambre des députés, selon lequel l'euthanasie ne serait plus considérée comme un homicide, a suscité une large vague de polémiques dans le monde médical tchèque. Alain Slivanski.
L'euthanasie, un acte très controversé déjà, mais qui est revenu au centre de l'attention de l'opinion des politiciens, mais surtout du monde médical tchèque, après que les députés tchèques aient décidé, en adoptant le projet du nouveau code pénal, de le considérer comme un crime, certes, mais plus comme un meurtre. L'auteur d'une euthanasie serait passible d'une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à 6 ans. Naturellement, si le projet de loi est adopté encore par le Sénat et signé par le président de la République. Qu'en pensent les citoyens tchèques? À la question de l'agence Médiane, êtes-vous pour la légalisation de l'euthanasie? 69% des Tchèques avaient répondu par l'affirmative contre 31% qui la refusaient. Peut-être le plus concerné, le monde médical tchèque, est très divisé. L'article du projet du nouveau code pénal sur l'euthanasie ne plaît ni aux partisans ni aux adversaires de l'euthanasie. D'un côté, l'euthanasie pourrait être exploitée à des fins douteuses, de l'autre, le nouveau code pénal ne stipule pas précisément les peines encourues par les médecins qui la pratiqueraient, car tout dépendrait de la volonté de la justice. Pour le corps médical, ce n'est qu'un demi-pas en avant. Peter Psioda, maître de conférence d'éthique médicale à la 2e faculté de médecine, affirme: en créant une catégorie spéciale d'actes criminels pour l'euthanasie, le code pénal ouvre la voie de sa pleine légalisation. Aux Pays-Bas, où l'euthanasie a été légalisée, il y a un tel nombre de cas qu'ils ne sont même plus répertoriés régulièrement. Les médecins les plus souvent confrontés à ce problème sont probablement les cancérologues. Le docteur Pavel Bocek, par exemple, déclare sur les pages du quotidien Mladá Fronta Dnes que face à des cas désespérés d'enfants atteints du cancer, face à la douleur du petit patient, mais aussi de ses proches, il aurait bien voulu aider, arrêter la souffrance, mais cela lui était interdit. D'autres médecins restent contre l'euthanasie et leur position à l'égard des patients ou des proches est plus facile, la loi interdit un tel acte. Les politiciens, même au sein de la coalition gouvernementale, restent divisés.
Cette année, le 17 novembre n'était pas uniquement un jour férié célébrant la lutte pour la liberté et la démocratie. Plus discrètement et à côté des célébrations officielles, les francs-maçons tchèques fêtent les 15 ans de la recréation de leur loge dans le pays. Une occasion de se pencher sur ce monde qui souvent intrigue par le mystère qui s'en dégage. De nombreuses grandes figures de l'histoire tchèque ont adhéré à ce club très fermé qui rassemble des hommes, et parfois des femmes, en quête de réflexion et de partage de pensées. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit rappel historique, un avant-goût d'un entretien réalisé par Anna Kobešta avec successivement Marc Verdier, trésorier de la Grande Loge de la République tchèque, membre de la loge francophone Alphonse Mucha, et Petr Jirounek, grand maître de la Grande Loge de la République tchèque.
Avant la création de la première loge maçonnique, la première réunion maçonnique qui se soit tenue à Prague a eu lieu en 1740, parce que Prague était occupée par les armées françaises, et les militaires français francs-maçons tenaient leur réunion maçonnique là où ils étaient. Donc il y a eu une réunion maçonnique en 1740, plusieurs réunions maçonniques en 1740 à Prague, sans qu'une loge n'ait été déjà constituée à l'époque.
Moi, je ne sais pas si cette loge dont tu viens de parler, est-ce qu'elle a donné peut-être l'impulsion pour créer cette loge en 1941, une année plus tard. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu cette lettre qui a été envoyée à une loge sœur à Regensburg par une loge pragoise dans laquelle ils informent leurs frères allemands de la célébration du 50e anniversaire de la création de leur loge. Cette lettre, elle date de 1791, donc 50 ans plus tôt, on tomberait dans les 1741. Ensuite, lors de la révolution de 1789, les francs-maçons ont été accusés à tort d'être à l'origine. L'empereur François II a supprimé l'ordre dans tout l'Empire autrichien. Cette interdiction fut levée qu'en 1918, c'était au moment où la République tchécoslovaque a été créée. À ce moment-là, il y a eu plusieurs loges qui ont été créées. On a eu des loges qui ont été créées sous l'influence du Grand Orient italien. Il y a eu des loges qui ont été créées sous l'influence des Français. Et petit à petit, il y a eu des loges purement tchèques qui se sont créés, et à côté il y a eu des loges purement allemandes. Il faut dire qu'à cette époque, les frères tchèques visitaient volontiers les travaux des loges allemandes. Alors il y avait pas un grand problème nationaliste, bien que c'était très tôt après la fin de l'Empire austro-hongrois, on pourrait s'attendre que les Tchèques n'auraient pas beaucoup de sympathie pour les loges allemandes. Mais comme c'était les francs-maçons, on est tous frères, donc ça s'est bien passé. Puis ce développement de la franc-maçonnerie, ça a duré jusqu'à l'arrivée des Allemands. Donc juste avant l'occupation allemande, il y avait environ 3500 francs-maçons en Tchécoslovaquie. Donc à peu près la moitié des loges tchèques et la moitié des loges allemandes. Ensuite, ces loges ont été mises en sommeil. Le travail maçonnique a repris après la guerre pour une période assez courte, puisqu'en 1948, c'est les communistes qui ont pris le pouvoir. Les francs-maçons ont pensé, ont cru qu'ils pourraient quand même continuer. En 1951, ils se sont rendus compte qu'ils sont en fait infiltrés par plein d'agents communistes, et puis ils ont décidé de fermer les loges. Et quelques frères, avec beaucoup d'intelligence, ont profité de ce moment-là d'initier pas mal de frères, parce que on savait pas si ça va durer longtemps, mais comme ça avait une bonne base de francs-maçons. Et puis après 40 ans, surtout ces maçons, il en est resté 28, donc l'âge moyen était entre 80 et 95 ans.
Petr Jirounek, grand maître de la Grande Loge de la République tchèque, au micro d'Anna Kobešta. Pour en savoir plus, retrouvez cette rencontre au complet dans le prochain numéro de la République tchèque au quotidien. Jeudi 1er décembre a été en République tchèque aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. À Prague, les manifestations principales se sont déroulées sur la place Venceslas au son des tambours. L'association tchèque Aide Sida y a dressé un stand où les spécialistes ont répondu aux questions du public. Les Pragois ont voulu savoir notamment où étaient pratiqués dans la capitale les tests VIH anonymes et gratuits. Néanmoins, le secrétaire de l'association, Miroslav Hlavatý, a constaté que les Tchèques étaient toujours assez mal informés à propos des modes de transmission du virus. La République tchèque se range certes parmi les pays les moins touchés par le sida. Selon les estimations des experts, elle compterait au total environ 4000 personnes séropositives, toutes nationalités confondues. Mais rien que cette année, on a enregistré 76 nouveaux cas, 4 de plus par rapport à l'année dernière. Le nombre de décès par le sida s'élève à ce jour à 118. Pour de nombreuses villes tchèques, la journée mondiale de lutte contre le sida a été aussi l'occasion d'organiser une collecte publique dont le bénéfice permettra d'améliorer la qualité des soins dans ce domaine. Rappelons que ces derniers sont assurés dans le cadre de l'association Aide Sida par Dom Svetla, la Maison de la Lumière, à Prague, où sont effectués justement les tests VIH gratuits. Ouverte en 1999, la maison offre une palette de services destinés aux malades, à leurs proches et familles, dont une assistance par téléphone et une aide sociale et juridique. La maison organise également des activités sportives et de loisirs. Vous y trouverez un café, une bibliothèque et un centre fitness. C'est à Prague, Karline, rue Malero. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, nous allons nous rendre maintenant au Centre culturel tchèque à Paris, rue Bonaparte. Notre correspondant Jiří Slavíček a assisté à une intéressante manifestation qui s'est déroulée dans le cadre du festival La culture tchèque des années 60.
Alors que le hall d'entrée du Centre tchèque à Paris fait déjà penser aux fêtes avec, comme le veut désormais la tradition, son petit marché de Noël, ses caves, pleines jusqu'à la dernière chaise, ont réveillé mardi dernier au soir une autre tradition, à savoir les souvenirs de la naissance et du développement des petits théâtres de Prague dans les années 60 avec le texte d'Ivan Viskočil et Přemysl Rut intitulé « Un homme avec une bière ». Tout un programme pour un tchèque, direz-vous. Dans la salle, il y a eu autant de fronts dégarnis et de cheveux blancs que de jeunes. Comme le disait fort justement un connaisseur, dans le public, Antonin Lim, la culture tchèque des années 60 garde sa force. Elle n'est pas hors du temps. Les chansons de Jiří Suchý, les soirées de lecture des textes par leurs auteurs sur une petite scène organisée par Pavel Bošek pour ne citer que, et surtout le format des petits théâtres qui subsistent à Prague jusqu'à aujourd'hui, tout cela avant le retour de la culture tchèque dans le contexte démocratique européen de nos jours, a servi en son temps de refuge aux esprits libres qui ont voulu échapper à la pesanteur du régime politique d'alors. Tout cela peut paraître bien loin, comme par exemple le film « Les trains étroitement surveillés » qui sera reprojeté à Paris le 13 décembre. Mais les textes traduits et mis en scène par Katia Hala sont là pour témoigner que non seulement à Prague, mais aussi à Paris, il reste de la culture tchèque des années 60, même chez les buveurs de vin, quelque chose de plus qu'un demi de bière.
Hvězdy řeknou, že čas jich cpá, pramínek v lesu jí ustřihnu potají, komu no přece té, kterou mám rád. Pramínek v lesu jí ustřihnu potají, já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají.
Je vous rappelle que dimanche, dans Culture sans frontières, vous pourrez rencontrer la jeune vedette du cinéma français, Romain Duris. Il est venu fin novembre à Prague pour présenter au Festival du film français le film de Cédric Clapiche, Les poupées russes, où il tient le rôle principal. Je vous propose maintenant un extrait de cette interview. Romain Duris, vous avez dit qu'au départ, vous n'aviez pas voulu faire de cinéma. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous avez fait du dessin, non?
Oui, voilà. J'étais dans une école de peinture, je faisais de la peinture. Et je sais pas encore dans quel domaine je voulais gagner mon argent, parce que bon, la peinture, c'est pas facile de gagner sa vie avec la peinture, mais en tout cas c'était sûr que ça allait être quelque chose dans l'illustration, je pensais aussi pourquoi pas faire des livres pour enfants, enfin voilà, et à côté de ça de faire de la peinture libre.
Vous avez complètement abandonné le dessin, la peinture?
Un peu, oui. Ouais, parce que j'ai trouvé une autre façon de m'exprimer, quoi. Donc, c'est à mon grand regret, hein. J'espère qu'un jour ça va revenir, mais en tout cas, là, quand je fais un dessin, ça m'énerve, j'ai envie de le jeter à la poubelle. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by.
La suite de l'interview de Romain Duris, c'est dimanche dans Culture sans frontières. C'était Fais événements en République tchèque par Magdalena Segertova. Merci de votre attention. Ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
Économie, commerce.
Le thème de l'égalité des chances économiques est un enjeu clé aujourd'hui en France et il ne cesse d'alimenter les débats. Dans un contexte différent, le sujet est tout autant d'actualité en République tchèque. Il concerne en premier plan la parité homme-femme dans le cadre du travail. Sous l'action conjuguée du ministère des Finances et des organisations non gouvernementales, la situation s'améliore, mais il reste encore beaucoup à faire. L'égalité des chances entre hommes et femmes préoccupe de plus en plus le monde politique tchèque, mais aussi l'opinion publique. Nous n'en sommes pas encore à une situation idéale, mais sans doute elle s'améliore et une nouvelle tendance s'amorce peut-être. En 2004, les femmes représentaient 47% de la population active selon le Bureau tchèque des statistiques. Mais l'équilibre des sexes se dessine en trompe-l'œil. Car si elles sont 38% à occuper des positions de juriste ou de manager, elles sont par ailleurs 75% à occuper les postes les plus bas dans l'entreprise. Selon une récente enquête publiée dans Prague Post, quelques entreprises en République tchèque se démarquent particulièrement dans les efforts déployés pour rétablir la parité. Parmi elles, IBM, Oscar et Price Waterhouse. Elles arrivent en effet en tête d'une étude menée par un comité d'experts en ressources humaines. Dans la compagnie de téléphone mobile Oscar Vodafone, la moitié des 2200 employés sont des femmes. Or, elles représentent 40% des membres de l'équipe de management et la moitié parfaite du personnel de haute direction. Un souci de la parité qui aurait marqué l'identité de l'entreprise dès sa création. Yulette Packard a pour sa part mis sur pied une liste des talents, un programme destiné à détecter les managers potentiels assez tôt dans leur carrière afin de leur donner les moyens de développer leurs compétences professionnelles. L'un des buts déclarés de ce programme est de placer 30% des managers femmes au plus haut niveau de responsabilité, soit le même pourcentage de femmes travaillant pour la firme. Yulette Packard a également déclaré vouloir augmenter la proportion de ses employés femmes. Du côté d'IBM, il faut saluer deux initiatives, celle de la création du conseil de direction des femmes, mais aussi celle d'un programme destiné à aider les femmes dans diverses situations de leadership, du centre de conférence aux appels téléphoniques. Le directeur des ressources humaines d'IBM, Peter Draxler, évoque cependant les défis à venir, parmi lesquels la place des femmes dans les technologies Internet, monopolisées pour l'instant par les hommes. Menées par des organisations non gouvernementales, ces Gender Studies sont fortement encouragés par le gouvernement. Sur son site internet, le ministère des Finances tchèque annonce ainsi, avec délai à l'appui, un ensemble de mesures destinées à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi, le salaire et les conditions de travail. Pour cela, les organisations gouvernementales emploieront tous les moyens, parmi lesquels un travail d'information destiné à la presse spécialisée et la création de groupes de discussion permanents. Sur le plan législatif, le ministère des Finances s'engage à modifier ou à annuler les dispositions contraires à la parité économique homme-femme. Il compte ainsi mettre sur pied une liste des plaintes et des litiges relatifs aux droits des femmes dans l'entreprise. Le ministère veut aussi se mettre dans les plus brefs délais au diapason des normes européennes sur la discrimination entre hommes et femmes au travail. La directive d'avril 2004 du Parlement et du Conseil européen est tout entière consacrée à ce sujet. Elle a prévu l'allocation de 350 000 euros destinée au financement des organisations non gouvernementales œuvrant pour l'égalité des sexes. Car la situation tchèque est bien à l'image de l'évolution européenne. Si l'on constate une amélioration indéniable, le quotidien est loin de consacrer les mêmes droits. En attendant, certains cas spécifiques en République tchèque annoncent peut-être les grandes évolutions de demain. Voici quelques portraits de femmes placées au plus haut niveau de l'entreprise. Tout d'abord, Monika Zahalova, une économiste de 40 ans qui a été placée à la tête de l'Institut tchèque de l'Association des directeurs. Une femme d'action, mère de deux enfants, mais également adepte de sports réputés masculins, tels la course automobile. Eva Yanushkova et Daniela Flestarova peuvent, quant à elles, s'enorgueillir d'avoir créé E-Danieli, une société de couture pour clients aisés. Fondée il y a 14 ans, l'entreprise comptabilise des 10 millions de couronnes de ventes annuelles et se tourne déjà vers les marchés étrangers. Exception confirmant la règle, de moins en moins, car l'action conjuguée du gouvernement et des ONG devrait changer progressivement la donne. Restent d'autres problèmes à aborder dans les années à venir, comme l'accès au travail des Roms et peut-être d'abord des femmes Roms.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear